dans le cadre d'un cycle de conférences intitulé « Une église vivante, un monde à aimer, 60 ans après le Concile Vatican II, célébrons l'espérance ». Nous vous proposons d'entendre la seconde partie de l'intervention de l'abbé Xabier Zabaleta, intervention qui portait sur dignité humaine, dignitatis humanae, que dit le Concile à notre monde. Nous écoutons l'abbé Xabier Zabaleta.
Après, le Concile cite des documents autour de l'histoire de l'Église. Alors j'en ai récupéré quelques-uns, je pense qu'ils ne vous sont pas connus, mais s'ils sont connus, vous influencez mon usage. Au cours de l'histoire de l'Église, il y a toutes sortes de situations. Donc il faut écouter bien qui parle et quand. Alors le premier document, pardon, remonte à Saint Grégoire le Grand, 602. Voilà le document dont je parle. Donc il a vécu à la fin du 6e siècle, au début du 7e. Et il écrit à l'évêque de Naples. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Je cite. Ceux qui, avec une intention droite, désirent amener des hommes étrangers à la religion chrétienne, à la foi juste, doivent s'y efforcer par des paroles de bonté et non par des paroles dures. Des Juifs qui habitent Naples se sont plaints auprès de nous en disant que certains s'efforçaient de façon irraisonnée de les empêcher d'accomplir certaines célébrations de leurs fêtes. Bien sûr, au nom de la vérité du Christ, attention, hein, c'est moi qui ajoute. En sorte qu'il ne leur soit plus permis d'accomplir les célébrations de leurs fêtes comme il leur était permis depuis longtemps, ainsi qu'à leurs parents. Donc il y a quelques élateurs, mais voilà. Il faut donc, c'est le pape qui continue, c'est pas moi, hein, il faut donc faire en sorte que, encouragés par la raison et la douceur, ils veuillent nous suivre et non pas nous fuir. Pour que leur expliquant par les Écritures ce que nous disons, nous puissions, avec l'aide de Dieu, les convertir au sein de la Mère Église. Voyez l'attitude de Saint Grégoire. Et l'évêque de Naples de l'époque s'appelle Pascase, car il lui fasse, mais on ne sait pas grand-chose de lui, en dehors qu'il a été l'objet de la lettre du pape, mais qu'il laisse entendre qu'il y avait déjà des choses. Quelques temps après, nous avons un concile local, le concile de Tolède, le 4e. Vous n'êtes peut-être pas trop familiarisé avec l'histoire d'Espagne, mais le 7e siècle, c'est avant l'arrivée des musulmans. Il y a une grande figure, c'est cet Isidore, évêque de Séville, qui rayonne un peu sur tout le monde, et il convoque un concile pour décider, entre autres choses, écoutez bien, la conversion forcée des Juifs. Alors, je lis le texte du concile. Donc, je vous ai parlé de Saint Isidore parce qu'en fait, on pense que c'est lui qui a guidé un peu la réflexion, parce que tous les évêques n'avaient pas sa sagesse, son niveau. Voilà. Il est contraire à la religion chrétienne que personne, contre sa volonté persistante et malgré son opposition, soit obligé à recevoir ou à garder la foi chrétienne. C'est pourquoi on distingue entre ne pas vouloir et être forcé, de sorte que celui qui est attiré violemment par la terreur, par des supplices, ou pour ne pas subir un dommage, s'il reçoit le baptême, c'est-à-dire si de façon feinte il s'approche du baptême, il ne reçoit pas le caractère du baptême, il n'est pas du tout tenu à observer la foi chrétienne. Traduction, il y a eu des gens à qui on a forcé la main. Et donc, le concile dit non, 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 non. Si vraiment ils ne voulaient pas, ils n'ont pas reçu le baptême. Le baptême ne se reçoit pas contraint. Donc, en revanche, celui qui ne consent pas, qui s'oppose, oui, pas au contraire, il insiste, il ne reçoit pas ni la réalité ni le caractère du sacrement, même si, parce que, c'est contredire expressement de ne pas consentir. Alors, c'est aller très loin, parce que vous allez comprendre la suite. Par rapport à ceux qui dorment ou qui sont fous, donc on a peut-être baptisé certains pendant qu'ils dormaient, d'autres qui n'étaient pas tout à fait dans leur case. Par rapport à ceux qui dorment ou qui sont fous, si avant de tomber dans la démence ou de dormir, ils n'étaient pas d'accord, on peut penser qu'à chez eux demeure leur opposition, donc ils n'en reçoivent aucun sacrement. Pour dire, alors là on est monté d'un cran un peu plus fort par rapport à ce que disait le pape, parce que apparemment il y a eu, donc, mais c'est intéressant de voir comment déjà à l'époque on répond. On va sauter quelques siècles. Autour de la conquête de l'Amérique, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Alors, les excès de la colonisation espagnole et portugaise vont amener les rois à vouloir interdire l'esclavage des indigènes. Les théologiens de l'université de Salamanque affirmeront qu'il y a un droit naturel de l'homme à la liberté individuelle. Avant tout acte de foi, l'Indien n'en est pas moins un homme. Et vous savez peut-être que ça avait donné lieu à ce qu'on appelle la controverse de Valladolid. Il y a un livre qui le raconte bien, un film qui n'est pas trop mauvais, qui résume bien les choses. Alors c'est intéressant, et je m'attarde un petit peu sur cette controverse. Organisé, ça a été organisé entre 1550 et 1551, sous le pontificat de Jules III, à la demande de Charles Quint, qui demande comment il faut traiter, et la manière dont il faut traiter et parler devant les conquêtes dans le Nouveau Monde, qu'ils sont suspendus par lui, pour qu'elles se fassent avec justice et en sécurité de conscience. Donc il n'est pas tranquille. Il entend des choses qui lui déplaisent profondément, et la question c'est de savoir si les Espagnols peuvent se fonder sur un droit de conquête pour dominer et convertir par la force les populations indigènes, ou si les différents peuples amérindiens sont légitimes possesseurs de leur territoire. Donc, il y a toujours des histoires d'argent derrière. Et dans ce débat, il y a deux figures que le film montre très bien, Bartolomé de las Casas, dominicaine, et Ginés de Sepúlveda, un théologien, et vous savez, vous vous souvenez peut-être que leur divergence c'est est-ce que les Indiens sont vraiment des hommes à part entière ou pas, et Sepúlveda va se servir d'Aristote. Mais c'est intéressant aussi de savoir qu'Aristote c'est quand même 5 siècles avant Jésus, que dans son monde, dans son univers, il y a des esclaves et qu'ils ne songent pas à un monde différent, mais qu'entre nous, il y a eu quelqu'un qui écrit « Il n'y a plus d'esclaves, ni libres, ni juifs, ni grecs. » Donc, comment, quand on veut, on va récupérer cette histoire? Parce qu'Aristote, il écrit ceci, je vous le cite. Il dit qu'il est normal qu'il y ait des esclaves naturels parce que ce sont tous ceux chez qui l'emploi des forces corporelles est le seul des meilleures parties à tirer de leur être. C'est quand même rude comme phrase. Bon, c'est pas chrétien, je vous l'accorde, c'est un païen qui l'a écrit, mais il ajoute « ceux-là sont esclaves par nature ». Bon, et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre sacrifié par Jésus et 2000 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans le Moyen-Âge, beaucoup de théologiens se sont intéressés à Aristote, et Aristote était devenu une sorte de référence pour tout. L'Église n'a jamais canonisé Aristote, mais certains pensaient que. Et ça les arrangeait bien, parce que ça permettait de justifier un certain nombre d'atrocités. Résumé historique, ça c'est moi qui le fais. En 1526, donc vous vous rendez compte que c'est par rapport à 1492, ça fait environ 32 ans, hein, pas plus. Charles Quint promulgue un décret interdisant la réduction en esclavage des Indiens dans les possessions américaines. Quelques années après, il promulgue des lois nouvelles proclamant la liberté naturelle des Indiens et imposant la remise en liberté des esclaves indiens. Est-ce que ça a été suivi des faits? En partie, oui. Mais c'était tellement vaste que c'était difficile de savoir qu'est-ce qui se passe au fin fond de l'Uruguay. En 1537, le pape Paul III condamne l'esclavage des Indiens au nom de l'Église et il affirme, citation, « Les Indiens sont des véritables êtres humains, leur liberté et leurs droits doivent être respectés, même s'ils demeurent en dehors de la foi en Jésus-Christ, et ils doivent être invités à la foi par la prédication de la parole de Dieu et par l'exemple d'une vie vertueuse. » Bon, le pape l'a dit. Mais c'est important de voir comment il y a d'un côté, c'est les théologiens qui réfléchissent, bon, pour, contre, bon, comment répond le magistère officiel, la personne du pape. Mais voilà, je m'arrête sur ça. Mais à peu près dans les mêmes époques, vous avez le même problème au Japon. Vous savez peut-être que Saint François Xavier arrive au Japon en 1549. Donc on est dans ces années-là. 37-49, ça n'est pas énorme. Et donc je vais m'attarder un tout petit peu sur le Japon. L'histoire du catholicisme au Japon débute en 1549. Après un accueil favorable, je vais un peu vite. Les autorités japonaises se méfient des démarches des Européens vues comme des menaces conquérantes extérieures. C'est très différent de la situation en Amérique où il n'y avait pas, si vous voulez, un État dûment constitué. Au Japon, non. Au Japon, il y a un régime qui vaut ce qu'il vaut, qui a ses limites comme tous les régimes politiques, mais il y a un État. Alors, les autorités essaient de freiner le christianisme tout en conservant les relations commerciales. Toujours le fric. Et en même temps, pour arracher aux mains des pays catholiques le contrôle du commerce avec le Japon, des commerçants britanniques et hollandais promettent qu'ils se limiteront à des activités commerciales, qu'en aucun cas ils ne veulent envoyer des missions au Japon. Pourquoi cette différence? Parce que les premiers, c'était des Portugais et des Espagnols qui étaient arrivés au Japon. Après, les autres se sont dit, c'est un marché juteux. On croirait en temps de nos jours, comme on se dispute, le marché au niveau mondial. Mais il y a quand même des évolutions. L'historien de Chéguise pioche cette idée, il dit « On peut croire sincèrement à la gratuité de l'évangélisation du Japon par la compagnie de Jésus qui se mettait au service des âmes avant de se mettre au service des armes. » Et c'est vrai que Saint-François-Xavier, quand il arrive il a dans sa poche, dans sa besace, une lettre homologuée du pape qu'on a envoyée du roi du Portugal. Mais il s'en est jamais servi. Il s'en fichait royal. Mais néanmoins, il y a une réaction très violente du régime japonais, et en 1614, le christianisme était interdit sous peine de mort, et il y a eu des martyrs qui ont essayé de louvoyer, mais se sont fait attraper, et pouf, ça n'a pas fait long feu. Et quand c'est revenu, le Japon est intéressant parce que pour nous, ça fait penser à un pays tolérant, tout ça, amical, monnaie, en bon français. En 1853, donc 2 siècles et demi après, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que le Japon décide de s'ouvrir finalement aux Européens, et les Européens, cette fois-ci, disent « Ok, mais il nous faut aussi nous occuper de nos ouailles, donc on veut pouvoir construire des églises. » Adonuris y a encore 10, donc malgré eux, ils acceptent, à condition que les Japonais n'y aillent pas. Mais ça ne nous rappelle rien, en 1830, au nord de l'Afrique, non. Pensez-y. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? En 1854, il y a un prêtre français, Bernard Petitjean, prêtre de missions étrangères de Paris, qui est là-bas. Il ouvre l'église. On le sait parce que c'est lui-même qui le raconte. Hein. Il l'a écrit à son supérieur parce qu'il a été estomaqué de ce qui lui est arrivé. En 1865, il ouvre l'église et il voit un petit groupe de paysans japonais qui entrent. Oh, père, qu'est-ce que je fais? Parce que eux, ils risquent la vie, hein. Attention. Lui, européen, mais eux, non. Qu'est-ce que je fais? Il ne sait pas. Et ce groupe avance, et ils vont lui demander où se trouve la statue de la Sainte Mère Marie. Tiens. Le prêtre, il est complètement estomaqué, il leur montre la statue de la Vierge, et ces paysans lui disent, tu sais, nous avons la même foi que vous. Comment ça? Il y a 250 ans qu'il n'y a pas de prêtre ici, et vous avez gardé la foi. Dans des conditions qu'on a du mal à imaginer, de persécution. À cette époque, où est le problème, si vous voulez? À cette époque, et même après, il faut penser toujours que pour tous les gouvernants du monde, tous, la religion fait partie de l'État. Et que même les chrétiens, nous avions oublié qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Peut-être. Mais l'histoire continue, parce que on est au 19e siècle. Et au 19e siècle, les choses vont se gâter méchamment. Vous savez, vous connaissez peut-être, si vos souvenirs de Philo ne sont pas trop rouillés, qu'un certain Emmanuel Kant, il avait écrit un livre, La religion dans les limites de la simple raison. Que faisons-nous de la révélation? Pas grand-chose, puisque pour Kant, même s'il a des choses excellentes, je n'ai rien contre ce monsieur, qui était profondément sincère. Mais pour lui, l'essentiel de la religion revient sur le côté moral. La révélation, il s'en rassure. Et donc, il tente de distinguer les éléments d'une religion purement rationnelle. Il propose une réflexion sur le sens moral, etc. Mais tout cela, c'est très, 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 très mal vu par l'Église. Et vous avez toute la suite des Lumières qui arrivent. Et on va arriver en 1864 à un document romain redoutable que j'ai amené ici, si un jour ça vous intéresse. Ça s'appelle l'encyclique de Pie IX, Quanta Cura et le Syllabus. Syllabus, c'est un répertoire des erreurs, selon le pape, des théories modernes de son temps. Bien sûr, ça a évolué depuis. Mais c'est assez extraordinaire parce que ce pape, il réagit aussi avec ce qu'il est, avec ce qu'il a. Et il écrit des choses qui, aujourd'hui, nous paraissent dures. Dans le syllabus, nous trouvons une liste des principales erreurs selon le pape Pie IX. Et là, j'en ai écrit que deux. Il y en a 70. Je crois que c'est 70, en fait. Oui. Non, pire. 80. À 80. Bon. Donc, ils ont pioché dans les écrits des contemporains ce qui leur semble des erreurs. Et alors, par exemple, il dit que c'est une erreur d'affirmer que tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction sont objets de la science naturelle ou philosophie. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Mais cela veut dire que, selon certains philosophes de cette époque, tout ce qui échappe à la raison n'a pas de sens. Donc, il faut que réduire la religion, c'est pour ça que je vous citais le Kant avant. Hein. Mais ces mêmes gens, ils disent, et pour le pape, c'est une erreur. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Merci. Ça veut dire que j'ai passé 4 minutes d'une heure. Mais j'ai presque fini. C'est très important, c'est-à-dire que vous voyez comment, en 1864, le pape trouve scandaleux qu'on puisse dire ça. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il est convaincu que la religion chrétienne, c'est le summum de la vérité, mais surtout parce qu'il a derrière un tas de gens qui veulent que l'État contrôle tout. Ils veulent que l'État soit vraiment le maître de tout. Et à cette époque, et même avant, vous savez qu'on disait, il y avait le dicton cuius religio, cuius religio. C'est-à-dire, dans chaque endroit, on doit avoir la religion du roi ou de celui qui a l'autorité, et c'est important de se rendre compte que tout le monde, y compris les anti-religieux, étaient dans cette idée. Donc, ça veut dire que c'est les idées, les lumières ou autres, qui devaient avoir lieu de vérité. Et donc l'Église dit non, ça on ne peut pas l'admettre. Alors vous voyez comment c'est difficile dans les deux cas, et comment le Concile, il a essayé de nous ramener un peu aux fondamentaux pour échapper à ce genre de choses qui nous font du mal. Mais le pape écrit dans cette encyclique: les rationalistes ne craignent pas de promouvoir l'idée que la liberté des consciences et des cultes est un droit propre qui doit être proclamé et établi par les lois dans toute société bien ordonnée. Ce qui est quasiment le contraire de ce que le Concile dira 120 ans après. Non, moins que ça. 120 ans après. Et le pape Pie IX, il dira que Grégoire le VI, un de ses ancêtres, avait taxé cela de folie. Bien sûr. Alors, comment faire une synthèse là-dedans? Alors, d'abord, il faut se rappeler que la liberté de l'acte de foi appartient à l'enseignement de l'Église depuis toujours, mais que, avant les 10 000 ans, avant 313, l'Église est minoritaire et clandestine, et que ce qui va se passer au 4e siècle, c'est que Théodose va interdire les cultes païens et proclamer le christianisme comme religion d'État. Et tous nos malheurs commencent là. Cette attitude aura la conséquence de quelquefois des baptêmes forcés. J'ai fait des allusions, mais par exemple chez les Saxons c'est arrivé, mais aussi le châtiment de l'hérétique, parce qu'il représente une menace pour l'unité chrétienne, de la chrétienté. C'est-à-dire que dans tous les cas, l'individu est considéré d'abord comme membre d'un corps social et non pas comme une personne libre. Et ça m'a fait penser curieusement à Bernadette de Lourdes. Quand on lui dit que la Vierge lui a parlé, et on lui dit comment elle vous a parlé, je lui ai dit sa réponse. Elle m'a parlé comme une personne. Non pas comme un membre d'un groupe. Elle m'a parlé comme une personne. Bon. Pour comprendre cette attitude de l'Église dans ce passé pas si lointain, il faut aussi se rappeler que le pape, jusqu'en 1870, était aussi le chef d'État, avec une armée, des tribunaux et des impôts. Les États pontificaux disparaissent en 1870 avec l'unification de l'Italie comme l'État moderne. Et beaucoup de catholiques ont du mal à imaginer un pape indépendant de toute autorité politique s'il n'a pas un territoire où il soit le chef. Et pourtant, nous savons bien que la parole des papes n'a cessé de prendre de l'importance et du poids à mesure qu'elle s'est détachée du pouvoir politique. On n'aurait pas pu imaginer Paul VI parlant à l'ONU en 69, 100 ans avant. Impossible. Parce qu'on aurait dit, pardon pour la familiarité, il défend ses intérêts, il défend son Big Tech. Il est chef d'État. Paul VI, il arrive tout petit, frêle, no more war game, plus jamais la guerre. Et voilà. Mais, juste pour donner un exemple. Autrefois, la parole du pape, c'était la parole d'un chef politique parmi d'autres. Maintenant que son territoire est réduit à un état symbolique, sa parole est écoutée et attendue, même s'il n'est pas toujours suivi. C'est vrai. Et la preuve qu'elle est attendue, c'est qu'elle est contestée aussi. Sinon, je ne m'en dirais pas. Donc, bon, je vais arrêter là et je vous ai promis deux petites pistes de réflexion. Je vais vous prendre, imaginez-vous dans la tête, je ne sais pas s'il y en a peut-être qui sont d'origine qui est noire, peut-être, oui, non. Qui connaît d'ici la cathédrale d'Alger? Personne, moi non. Ah, vous connaissez? Très bien. Pardon? Oui. Vous imaginez la cathédrale d'Alger et vous comparez avec la cathédrale de Lima. Au Pérou. La cathédrale de Lima au Pérou, j'ai noté la date quelque part, 1543. Donc on n'a pas trop tardé quand même à faire des évêques. Quelle est la différence entre la cathédrale de Lima et la cathédrale de d'Alger? Mais ça veut dire que pendant longtemps, la cathédrale d'Alger était réservée aux catholiques. Maintenant qu'il y en a de moins en moins, les musulmans, comme on disait ce monsieur, essaient de s'approprier de ce bâtiment, bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous disais que on a fait, disons, on a eu des relations, que ce soit au Japon, au Maroc, en Algérie ou ailleurs. On a eu des relations où on a mis de côté la religion. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La religion chrétienne est vue comme la religion de l'envahisseur. Or, à Lima, dès 1550, vous avez des compositeurs indiens qui chantent le Saint-Sacrement. Si un jour ça vous intéresse, c'est une merveille. C'est un disque que je ne sais pas qui, quelqu'un m'a donné il y a quelques années, et c'est de la musique à partir du 16e et 17e siècle des maîtres de chapelle. Ça veut dire que les chrétiens, avec tous leurs défauts, avec tous leurs excès, ils ont aussi essayé d'apporter le meilleur de ce qu'ils avaient. Et si on a appris la musique occidentale aux Indiens, c'est parce qu'on pensait qu'ils étaient tout à fait capables. C'est, voilà. Et donc là, il y a, voilà. C'est une piste, hein, c'est tout. Et je finirai par une petite histoire qui m'a été racontée par un missionnaire que j'ai bien connu. Il s'appelait, il est mort il y a déjà quelques années, Henri Beau, B-E-A-U-D. Ce prêtre, il avait été envoyé fidei donum au Sénégal. Entre 1962 et 1980, grosso modo. Et il m'a raconté cette histoire. Le père Henri faisait le catéchisme dans la paroisse où il était, à Zimenshof. Pour ceux qui connaîtraient un peu le Sénégal, c'est pas mon cas. Et comme il n'avait pas de locaux paroissiaux convenables, il faisait le cathé dans l'église. Et donc les enfants venaient, ils faisaient le cathé, et il remarque qu'au fond de l'église, il y a un monsieur âgé qui se tient, qui dit rien. Il arrive un peu après les enfants, il part en même temps que les enfants, il dit rien. Et donc le père Henri, il est de plus en plus intrigué, parce que chaque fois qu'il y a le cathé, ce monsieur revient. Un jour, il finit par l'aborder. Et dit, qu'est-ce que tu veux ? Je veux le baptême. Ah. Et le père Henri, il m'a dit lui-même, je me suis méfié. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres anguilles, d'autres pressions, d'autres avantages ? Est-ce qu'il est vraiment sincère dans sa démarche ? Alors il lui dit, pourquoi tu veux le baptême ? Et ce monsieur lui explique. Il lui dit, tu vois, quand j'étais enfant, j'étais dans tel village, dans la Brousse, et les musulmans sont venus. Ils ont tué tous ceux qui n'ont pas voulu devenir musulmans. Moi, j'étais enfant, j'étais petit. On m'a laissé dans un coin. Je ne sais pas pourquoi. J'ai survécu. Et après, j'ai grandi. Et là, maintenant, je vais goûter parmi les enfants. Et, eh bien, tu vois, j'attendais le moment où tu allais les menacer, où tu allais leur faire peur. Ou bien. Alors, le père Henri me suit, mais attends. Je t'ai observé longtemps. Maintenant, je vois que tu mets en pratique ce que tu dis, etc. Je veux le baptême. Alors, le père Henri lui dit, bon, d'accord, il est rassuré, et il faudra que tu viennes avec le groupe d'adultes qui se préparent, etc. Non, je ne veux pas. Pourquoi ? Parce que quand tu parles aux enfants, je te comprends bien. Alors, je viendrai écouter les enfants. C'est tout. Apparemment, il était passablement têtu, donc pas moyen de le faire changer d'avis. Et le père Henri se dit, après tout, c'est pas très grave. Le royaume de Dieu est à ceux qui l'accueillent comme des enfants, on y va. Et donc, ce monsieur, il a continué à venir écouter le catéchisme du père Henri à ses enfants. De temps en temps, il posait sans doute quelques questions par-ci, par-là, pour demander un peu plus d'explications, mais bon. Et un jour, le père Henri lui dit, bon, écoute, Seigneur, je pense que maintenant tu es prêt, on a fait un peu le tour de la question. Si tu veux, à Pâques, de l'année prochaine, tu seras baptisé. Ah, très bien, bravo. Bon, écoute, je vais inviter tout le monde, toute ma famille, tous mes amis, tu viendras. Bon, d'accord. Et ce monsieur est baptisé la nuit de Pâques de l'année suivante. Le jour J, donc le jour de Pâques, il y a un méga banquet avec avec des invités de la famille, des amis de la famille, des amis des amis de la famille. Bon, on ne sait plus combien il y en avait. Et ce monsieur, il meurt deux jours après. Et le père Henri concluait, qu'est-ce que tu veux ? Il est passé du banquet terrestre au banquet céleste, ça va. Mais ça l'avait profondément marqué. Parce que moi, quand je l'ai connu, il avait quitté l'Afrique à son grand regret pour des raisons de santé. Les médecins lui avaient dit non, vous avez des problèmes de santé sérieux et le suivi qu'il faut. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire comment cette petite histoire était pour moi une piste pour vous dire comment aujourd'hui nous devons essayer de vivre ça. Parce que, évidemment, j'ai fait des allusions au temps présent, mais vous avez compris aussi que, quoi qu'il en soit, des réalités historiques dans l'histoire de l'Église, qui ne sont pas toujours belles, il nous faut toujours revenir aux fondamentaux, revenir à l'Évangile, pour essayer d'être des fidèles comme il faut. Merci.
Vous venez d'entendre la seconde et dernière partie de Dignité humaine, Dignitatis Humanae, que dit le Concile à notre monde, présenté par l'abbé Chabéar Sabaleta, conférence organisée à l'occasion d'un cycle 60 ans après le Concile Vatican II, Célébrons l'espérance, une église vivante, un monde à aimer, par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.